Voilà. Alors, je vais vous livrer ces quelques réflexions sous quatre rubriques successives. La première, on va appeler ça le jugement et la pratique. Ce sera peut-être la plus spéculative, la plus, si on peut dire, philosophique. Nous en viendrons ultérieurement aux questions, peut-être plus directement liées au théâtre. Bonjour, bienvenue. Regardez, il y a des chaises là, mettez-vous là, il y a des programmes. Welcome. Voilà. Alors, les premières considérations que je voudrais proposer, on pourrait les appeler le jugement et la pratique. Pour parler du jugement, nous allons partir évidemment du jugement esthétique, du jugement dit de goût, puisque notre question va être approchée à partir du domaine des arts. Elle ne va pas se limiter, j'espère, mais elle va être approchée à partir des arts. Alors, le jugement de goût, le jugement esthétique, a été caractérisé, théorisé, de façon particulièrement massive, par Kant, et si vous voulez, on va partir de là, pour essayer de savoir ce que c'est. Et en tout cas, remarquez à propos du jugement de goût, une ou deux caractéristiques qui pourraient être importantes pour la suite de notre réflexion. Alors je vais vous livrer en tout, j'en ai trois citations. J'en ai deux de Kant, et ça sera une ou deux. Alors, je vais vous livrer deux citations très très brèves de Kant dans la critique de la faculté de juger, qu'on appelle aussi critique du jugement, et où il est dans l'objet, dans toute sa première partie, et sa première moitié, est le jugement de goût, le jugement esthétique. Donc Kant, au moment où il écrit ça, est un des premiers à formuler une vision systématique. Donc, vers le tout début de la critique de la faculté de juger, au paragraphe 5, pour être précis, alors là je veux dire, pour mettre, je me décide à sortir mes lunettes, je pense que j'ai une citation de Kant ou de quelqu'un d'autre. C'est pas celle-là, non. C'est la fin, je les ai vus, vous êtes gentils. Même sans lunettes, je les ai vus. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est pour vous observer après. Non, pour lire, c'est... Voilà. Au paragraphe 5 de la critique de la faculté de juger, Kant dit à propos du jugement de goût ceci. En revanche, dit-il, c'est parce qu'il oppose le jugement de goût à l'appréciation de l'agréable et du bien. Donc, en revanche, dit-il, le jugement de goût est purement contemplatif. C'est-à-dire que c'est un jugement qui, indifférent quant à l'existence d'un objet, ne fait que mettre en relation la conformation de cet objet avec le sentiment de plaisir et de déplaisir. Ce qui se passe dans le jugement de goût, selon Kant, et ça sera bien sûr, c'est pas indiscutable, mais je pense que c'est un des éléments qui caractérise l'idée moderne du jugement esthétique, c'est que ce jugement esthétique est contemplatif et qu'il ne concerne pas ni l'objet dans ce qu'il serait par lui-même. Ça, c'est un problème, dit Kant, de connaissance. Le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance. Mais quelque chose, de façon très paradoxale, bien sûr, c'est pas aussi simple que je vais en dire, concerne et rapporté exclusivement au sentiment de plaisir et de déplaisir provoqué par la représentation de cet objet. Donc, purement contemplatif. Et ma deuxième citation, qui est un peu plus loin, qui est au paragraphe 12 de la même critique de la faculté de juger, apporte une précision, enfin revient sur cette même idée, mais apporte une précision par opposition, une précision négative, si vous voulez. Cette précision est celle-ci, c'est à propos du jugement moral. Il dit il y a là quelque chose d'analogue au plaisir qu'apporte le jugement esthétique, analogue. Avec cette différence, dit-il, que dans le jugement esthétique, le plaisir est alors purement contemplatif, à la différence du jugement moral, et il reste, dit Kant, sans susciter d'intérêt pour l'objet, Alors que dans le jugement moral, en revanche, il est pratique. Donc, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que le fait que le jugement de nous soit supposé être contemplatif exclut qu'il soit pratique. C'est redit un peu plus loin, dans le même paragraphe 12, ce plaisir n'est nullement pratique. Quand on regarde le texte allemand, c'est-à-dire, on pourrait dire ce plaisir n'a strictement rien de pratique, n'a en aucune façon rien de pratique, ni à la façon de celui qui procède du principe de l'agréable, ni à la façon de celui qui procède du principe du bien. Donc purement pratique. Strictement contemplatif, merci, et cela exclut toute dimension pratique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le jugement du goût, alors on le sait, une chose qui je crois est à la fois bien connue du point de vue de la théorie et qui rejoint quelque chose de très... quelque chose qui rejoint quelque chose qui est dans l'ordre de l'expérience commune.